Bonjour, bon et bel après-midi du samedi 22 décembre 2012. Voilà, nous y sommes, juste un jour après cette date dont on a tellement parlé. Nous l'avons vécu et aujourd'hui nous pourrons peut-être en témoigner. Bienvenue à vous dans ce groupe de partage autour de la non-dualité, autour de tout ce qui est vrai, profondément vrai, autour de notre vérité, notre grandiose vérité à l'intérieur, celle que nous cherchons tous et celle dont nous avons parfois un aperçu fulgurant sous forme d'extase dans notre vie ou de révélation. Bienvenue à tous les chers frères et sœurs, de plus en plus nombreux, qui nous écoutent à distance à travers cet enregistrement et qui sont déjà là dans cette pièce avec nous, dans le non-temps, dans l'espace où les énergies sont déjà ensemble. Voilà, avant de présenter les directions du groupe, je vais nous inviter tous à écoutez le son de ce bol de cristal avec la note qui parle au cœur, la note Fa, que je vais essayer de faire résonner maintenant. Merci. Voilà, dans quelques instants, nous allons partager ce qu'ils nous viennent partager à propos de nos expériences personnelles. Ça peut inclure n'importe quel passage de la vie de tous les jours. On m'a marché sur le petit orteil lorsque je faisais la queue au super casino. Et là, je me suis emporté, ou alors là, j'ai souri et j'ai dit à l'autre, c'est pas grave. Hein? Ou on m'a fait une queue de poisson sur le périphérique. Et là, je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il doit être pressé, ce frère-là, maintenant. Ou alors j'ai juré et je l'ai insulté. Tout est matière à exprimer notre vérité ou à nous défendre de notre vérité sous des aspects de séparation, d'accusation, de jugement, de condamnation, et j'en passe. Voilà, samedi 22 décembre, hier nous étions une trentaine dans ce lieu, réunis dans une certaine intimité de cœur qui a été appelée à grandir au fil des heures, à travers les chants, les mantras, les musiques, les contacts énergétiques divers, et puis surtout les intentions d'être unis à travers le cœur, d'être un, de ressentir cette unité dans notre expérience, hein, puisque vraiment il s'agit de vivre ça, et non pas simplement d'en parler. Voilà, dans ces groupes sur la non-dualité, souvent j'introduis au moyen d'une phrase très courte, peut-être la plus courte phrase qui soit, et qui dit simplement « Dieu est ». Dieu est, sachant que le mot Dieu se réfère à un concept de spiritualité plutôt que de religion, et qui, au niveau universel, le mot Dieu beaucoup d'équivalents. Ça peut être la source, ça peut être l'existence avec un grand E, tout ce qui est, tout ce qui existe. Et puis vous avez peut-être le vôtre, la nature pour certains, la vérité profonde. Voilà. Certains disent aussi le père, père-mère, etc. Tout ça n'a aucune importance. Et si le mot Dieu est trop connoté pour vous, remplacez-le par n'importe quel équivalent qui pour vous reflète tout ce qui existe, qui englobe absolument toute l'existence. Et ceci est parfait. Donc le thème de ces groupes s'est partagé autour du thème central qui dit « Nous sommes un ». Malgré les aspects de séparation que nous percevons dans nos vies et qui font partie du jeu de cette dualité qui dont on nous parle beaucoup en ce moment, qui est appelée à se minimiser, voire à disparaître, au fur et à mesure que nous acceptons de vivre dans l'espace du cœur, de notre cœur, et de simplifier les choses qui peuvent être compliquées dans nos vies, nos rapports humains, notre rapport à la vie elle-même, et notre relation au tout, c'est-à-dire au-delà du corps, ce qui ne vit pas et ne meurt pas, ce qui ne prend pas naissance et n'arrive pas à une fin, ce qui vit de toute éternité. Comme dit la leçon d'un courant miracle, il n'y a qu'une vie et je la partage avec Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, nous pourrons développer ces mots. Dieu est. Et souvent je dis Dieu est tout ce qui est, en corollaire à ces deux mots-là, qui étaient souvent employés par Jésus il y a 2000 ans. Et ce qui m'a beaucoup marqué au début de ces groupes, c'est de faire la relation entre Dieu et tout ce qui est, et Dieu ne peut s'opposer à rien étant tout ce qui est, parce qu'il s'opposerait à lui-même. Et cela mène naturellement à Dieu accueille tout, puisqu'il ne s'oppose à rien. Dieu ne juge rien. En particulier, Dieu ne juge pas notre expérience humaine, puisque nous l'avons souhaité. Et Dieu ne connaît qu'un seul mot, d'accord. C'est une phrase que cite un enseignant qui s'appelle Jayem, dans le sens où d'accord pour l'expérience, quelle que soit l'expérience. De toute manière, cette expérience est définie comme un rêve dans la non-dualité, puisque nous sommes un avec Dieu, et donc il n'y a pas un deuxième en face de nous, même si nous le percevons dans cette dualité-là. Il n'y a pas à qui s'opposer dans le monde de la réalité. Et donc tout le reste est imaginé. Tout le reste est perçu, mais imaginé. C'est pas parce que je le perçois, c'est pas parce que j'ai l'impression que la matière est solide que ceci est réel. Donc nous faisons bien la différence dans ces groupes entre ce qui est perçu et ce qui est réel, ce qui est vrai, entre l'illusion, ce monde où l'ego règne en maître, presque absolu, et la vérité, le monde de Dieu, celui dans lequel nous sommes inclus, tous, toute l'existence, les 7 milliards d'humains, mais aussi toutes les autres formes d'existence dans tous les univers. Voilà, et nous sommes des facettes d'un énorme diamant qui est fait pour révéler notre lumière, qui est imaginé pour révéler la splendeur de qui nous sommes. Et bien sûr, plus il y a de facettes et plus la lumière peut se réfléchir. Et nous avons choisi dans cette dualité la multiplicité pour avoir devant nous autant de miroirs que nécessaire pour nous dire « Et maintenant, qu'est-ce que tu choisis quand je te renvoie ta propre image ? Est-ce que tu choisis la paix ? Est-ce que tu choisis l'amour ? Ou est-ce que tu choisis le jugement ou la condamnation ?» Et si en face de moi, je vois un frère et que je le condamne, alors j'en ai 6 999 000 000, etc., d'autres, pour faire d'autres choix. Et la vie terrestre est une suite d'expériences dans laquelle nous faisons des choix, sachant que le choix ultime, c'est de choisir la paix, la vérité et l'amour à chaque instant. Et tant que nous ne prenons pas conscience de cette vérité, de ce choix ultime, alors nous continuerons nos expériences. Et lorsque nous prenons conscience qu'il n'y a en fait pas de choix, parce que nous baignons dans l'amour en permanence de toute éternité, il n'y a que ça en nous et autour de nous, quand nous prenons conscience de ce non-choix, alors nous abandonnons nos vieux jouets de dualité usés jusqu'à la corde, qui nous ont amusés un instant et qui maintenant ne nous font plus rire. Et joyeusement, nous sortons du rêve, ou nous restons dans le rêve, mais nous continuons dans un rêve qu'on appelle heureux. C'est-à-dire, nous savons que nous sommes dans le rêve, et nous y restons parce que ce rêve heureux peut encore avoir une utilité pour aider les autres à en sortir, en particulier pour déployer notre lumière, tout en sachant que ce monde est une vaste pièce de théâtre, mais nous acceptons de jouer notre rôle en toute connaissance de cause et à la perfection. Donc nous sommes dans le théâtre, nous avons construit le théâtre, nous sommes le directeur de la production, nous sommes le scénariste, nous avons écrit les dialogues, le générique, nous sommes tous les acteurs sous la forme d'un seul acteur, et nous sommes aussi ceux qui critiquent le jeu. Nous sommes toutes les facettes à la fois, et c'est normal puisque il n'y a qu'un seul acteur. Hein, il n'y a qu'un, et ce un-là, dans un temps illusoire, a décidé de poser la question que se passerait-il si nous n'étions pas divins par jeu, mais il est dit dans un courant miracle que le Fils de Dieu a posé cette question et a oublié d'en rire. Et parce qu'il a oublié d'en rire, cette question, finalement, a pris des effets très réels, a entraîné des effets qui ont semblé très réels, capables d'effets et d'aboutissements. Pourquoi ? Parce que nous sommes esprits divins d'une puissance sans égale, et que nos intentions sont réalisées immédiatement, parce que Dieu dit d'accord. Et nous sommes Dieu, et nous disons aussi d'accord à nos créations, à nos imaginations, à nos fabrications. Et donc nous avons jugé utile de fabriquer le temps, l'espace, le monde tel que nous le voyons, la dualité, tous nos frères et sœurs, dans le simple but de vérifier que serait un monde sans amour, de vérifier cette proposition qui semble aberrante, puisque il n'y a que l'amour dans la vérité, dans la réalité, et rien d'autre et aucun opposé à cet amour. Et donc, pour répondre à cette question absurde, il a semblé que nous nous soyons endormis un moment pour rêver de la réponse. Et ce rêve s'appelle dualité, avec un grand D, avec un générique de 7 milliards de noms en dessous, pour jouer, pour inventer des choses qui n'existent pas, pour s'éloigner de Dieu, pour avoir l'extase ultime de sembler y replonger, hein, pour tendre l'élastique hors de l'amour apparemment, pour le lâcher et y revenir dans une expansion maximale de notre perception. Voilà. Donc nous faisons apparemment l'expérience du non-amour. On peut simplement dire bravo, c'est réussi. Vraiment, le jeu a été joué à la perfection. Et surtout, nous y avons cru. Nous y avons cru à 100%. Nous avons vraiment cru à la souffrance. Nous avons vraiment cru au désespoir. Nous avons vraiment cru que nous pouvions être limités, petits, sans pouvoir, mortels, finis, et sans puissance. Tout l'inverse de notre vraie nature. Et pour le faire, nous avons dû voiler la partie de nous qui se rappelle de notre vérité, parce que le jeu n'aurait pas duré un milliardième de seconde si nous savions que c'en était un. Et c'est pour ça que cette période s'appelle l'apocalypse, ces temps actuels qui signifie la levée du voile. Le voile de quoi ? Le voile de l'ignorance, hein, le voile qui nous masque temporairement notre nature divine afin que nous puissions jouer et croire au jeu. Voilà, c'est prodigieusement divin, hein, ce scénario et les outils utilisés pour faire en sorte qu'il soit complètement crédible, ce jeu. Alors, malgré tout et malgré toutes les précautions que nous prenons, l'appel à s'éveiller est engrammé en nous et arrive un moment dans notre vie humaine ou dans une autre vie humaine, puisque nous les enchaînons avec plaisir ou pas, à loisir, cet appel à s'éveiller va se manifester d'une manière ou d'une autre. Dit autrement, nous portons l'étincelle divine qui ne peut pas s'éteindre, mais qui est voilée par des couches et des couches et des couches d'ignorance. Comme si nous portions en face du vrai soleil un million de paires de lunettes pour voiler l'éclat du soleil et le ramener à l'état d'une simple petite étincelle, mais qui ne peut pas être complètement masquée. Voilà, cette petite étincelle, c'est aussi celle qui nous réunit aujourd'hui, et je lui rends hommage. C'est aussi celle qui fait que toi, cher frère et chère sœur de lumière, tu es devant tes haut-parleurs et tu nous écoutes en ce moment. Parce que l'appel à s'éveiller est au plus profond de nous. Et parfois, il arrive spontanément une révélation qui dit « Seul Dieu est, tu veux un petit aperçu ? Voilà. Tu veux un apéritif du monde réel ? Voilà. » Certains en ont vécu dans leur vie. Gary Renard, qui a écrit le livre « Canaliser et l'univers disparaîtra », nous relate ce que c'est qu'une révélation de la présence divine, quelque chose qui est très difficile à mettre en mots et qui pourtant il a essayé de le faire. Et puis certains vivent ça dans leur vie à travers des épreuves, à travers des souffrances, à travers un handicap, à travers un accident, à travers une rupture sentimentale, amoureuse, à travers le décès d'un proche. Tout d'un coup, la vraie question est enfin posée. À quoi sert ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et tout d'un coup, les vraies réponses peuvent arriver. Je veux être heureux. je veux aimer et je veux être aimé. Et s'il y a bien une réponse qui est commune à toute l'humanité et au-delà, c'est bien celle-là. Je veux aimer, je veux être aimé et je veux être heureux. Voilà, je ne connais pas un seul individu qui ne souhaite pas être heureux. Et si nous y penchons un petit peu, Hitler, à travers ses actes abominables, comme nous les jugeons en tant qu'humains, veut aussi être heureux. Et c'est à travers ses actes qu'il exprime son profond appel à l'amour. Quelqu'un qui agit avec des actes de souffrance, qui témoignent d'une souffrance, ne dit rien d'autre que « je veux être aimé, mais je ne sais pas le dire ». Je ne sais pas le dire d'une manière simple. Et donc, avec beaucoup de maladresse, j'emploie la brutalité, la violence, le crime, le génocide, pour dire « intéressez-vous à moi, regardez à quel point je suis coupé de ma source, et enfin aimez-moi ». Voilà, pour moi c'est une grande leçon, en tant que de culture juive, que de dire à Hitler « je t'aime ». Et c'est très émouvant pour moi d'avoir pu être témoin que des millions de frères et sœurs de la même religion ont été utilisés dans cette expérience pour révéler une compassion dans le monde, pour révéler un élan sans pareil de générosité, d'entraide, de solidarité. Chaque âme qui est partie à cette occasion et à d'autres tragiques a donné son accord pour le faire. Et nous avons eu un message récent canalisé sur la fusillade qui a eu lieu aux États-Unis. Tous étaient d'accord. Le criminel, les enfants, les parents, tous ont donné leur accord pour faire partie du scénario. Même si pour nous, sans cette vision plus large, plus globale, c'est très difficile à accepter. Ça peut être révoltant pour certains. Seule une vision du plan divin plus large peut nous aider à laisser cette vérité émerger. Toutes les situations servent à choisir l'amour ou à se réfugier derrière la peur. Mais quand je me réfugie derrière la peur, c'est un appel à l'amour, exactement comme la personne qui commet des actes très violents. Aime-moi, s'il te plaît, aime-moi. Tu vois pas à quel point j'ai besoin d'amour? Et le pardon véritable ne dit rien d'autre que ça. Ce que je crois que tu avais fait en vérité dans le monde de Dieu ne s'est pas produit. Nous l'avons rêvé et je peux le reconnaître et reconnaître que tu es impeccable, c'est-à-dire sans péché. Tu as joué à être le bourreau, ou moi, j'ai joué à être la victime. Et à un autre moment, nous avons inversé ces rôles et tout ça pour nous rappeler notre nature profonde. Et force est de constater que ces situations peuvent nous aider à sortir du rêve, peuvent nous aider à reconsidérer que dans ce monde, il n'y a pas d'amour, à reconsidérer de quelle matière nous sommes faites, de quel élément nous sommes faits. Voilà, j'étais très touché par une conférence de Simon Leclerc il y a quelques années où il disait cette très belle chose, demander à un poisson ce que c'est que l'eau, et le poisson aura beaucoup de mal à définir l'eau parce qu'il est dedans et parce qu'il oublie complètement la présence de l'eau. Il n'a pas de mots pour dire, c'est tout à fait naturel, mais sortez un poisson de l'eau. Et reposez-lui la même question. Et là, il va savoir exactement vous dire à quel point c'est vital, à quel point c'est important, à quel point il n'a de cesse que d'y revenir, à quel point c'est tout ce qui le constitue. Et pour nous, l'eau, c'est l'amour. Hein, et nous avons joué à sortir de l'océan d'amour pour avoir la joie ineffable de nous y replonger et de rire du rêve ou du cauchemar que nous avons inventé. Voilà le sujet aujourd'hui. Merci à l'esprit d'avoir guidé mes paroles. Je vais continuer à inviter l'esprit à guider la réunion, que ce soit mes paroles, mon silence, notre silence, nos paroles, nos inspirations, en citant 5 phrases que je trouve absolument puissantes et qui m'émerveillent à chaque fois que je les prononce. Et qui disent ceci, vous pouvez les retrouver en page 30 d'un cours au miracle. Elles disent, je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire. Car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Et d'une certaine manière, ces phrases résument un cours en miracle tout entier. Parce qu'il est dit énormément de choses, et en particulier, la phrase du milieu, je peux faire une confiance absolue que je suis guidé et dirigé à chaque instant par celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire la partie élevée de moi-même qui n'a pas quitté le monde de l'unité et qui est là pour veiller à m'accompagner. Me placer au bon endroit au bon moment, m'indiquer 12h12 quand je me réveille, ou à chaque fois que je regarde un cadran, me donner une petite indication. Coucou, c'est nous. Voilà, le monde subtil est là tout le temps. Il est invisible, mais pas à un cœur qui se met à l'écoute. Et plus les signaux sont fréquents, et plus le retour à la maison est proche. Et je cite souvent, et je recite à nouveau cette phrase d'Henri Gougaud qui est profondément inspirée pour moi. La confiance, c'est la certitude que rien n'est sûr, mais que tout ira bien. Et sur cette phrase, je cède la parole. Bienvenue à vos partages ou à nos silences. J'ai parlé.
Merci Avi, j'aimerais revenir sur la notion de devoir faire quelque chose. C'est quelque chose dans notre expérience humaine qui est permanente. C'est quelque chose qu'on apprend aux enfants dès leur plus jeune âge. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et puis peu à peu, évidemment, pour que ça marche, on lui offre aussi des carottes avec des récompenses promises. Et donc cette notion de devoir, elle est totalement inhérente au monde de l'ego, au monde de la séparation. Dans les enseignements non-duels, et en particulier dans un cours en miracle, le mot devoir ou le mot obligatoire se présente. Par exemple, j'ai tiré tout à l'heure la leçon 138. Heaven is a decision I must make. Le ciel est une décision que je dois prendre. J'ai fait exprès de la dire en anglais pour bien montrer que c'est le mot must qui est employé. Dans la traduction française, on dit le ciel est une décision que je dois prendre. Mais dans l'anglais, ça peut aussi dire que je dois le faire, c'est obligé. Mais ça peut aussi dire ça ne peut pas se passer autrement. Et c'est ça que ça veut dire. Donc, quand quelque chose doit être fait, dans le monde divin, dans le monde de la réalité, c'est quelque chose qui ne peut pas ne pas se produire. C'est pour ça que le jeu de l'illusion que nous jouons, eh bien, il est joué à l'avance. On ne peut pas ne pas se réveiller. Dans l'introduction d'un cours en miracle, il est dit, ceci est un cours en miracle, c'est un cours obligatoire. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux en établir le programme. Cela signifie simplement que tu peux choisir ce que tu veux entreprendre à un moment donné. Ceci est un cours miracle, c'est un cours obligatoire. Ça veut dire, c'est obligé que tout le monde soit dans un cours en miracle. Et comme c'est obligé dans le non-temps, puisqu'il n'y a pas de temps, donc c'est fait. Et puis en même temps, il y a l'admission d'un rêve, d'une illusion avec un temps linéaire. Et donc, c'est pour ça que la phrase après, c'est seul le moment où tu choisis, tu as la liberté de le choisir quand tu veux. Bien. Mais même ça, ça fait partie d'un processus. Et tout à l'heure, Ravi nous disait que on est invité à choisir et puis finalement, il n'y a pas de choix. Et dans la leçon 138, la leçon du cours en miracle 138, le ciel est une décision que je dois prendre. Cette leçon invite au cours de la journée à choisir. Aujourd'hui, je choisis le ciel. Je choisis la réalité. Je choisis ce qui est vrai. Je choisis la plénitude, le paradis. Je choisis le bien sans opposé. Et puis donc, je m'entraîne dans la journée à rechoisir. Et dans cette leçon, il est dit, et puis, à un moment, tu vas t'apercevoir qu'il n'y avait pas de choix. C'était obligatoire. Et c'est là qu'arrive cette notion de pardon fondamentale, puissante et en même temps très subtile et pas évidente à comprendre. C'est aussi le Ho'oponopono de Hawaï, de ce, je ne sais pas quel est son nom, ce monsieur, qui a créé le Ho'oponopono, qui consiste à décider de voir autrement et d'accueillir le fait que c'est déjà fait. C'est obligatoire que tout le monde n'est que lumière. Il ne peut pas en être autrement. Et quand tout à l'heure Ravi a cité la phrase que m'est bien cité Jésus il y a 2000 ans, Dieu est, et en fait ça ne veut pas dire Dieu est et puis il y a aussi autre chose, ça veut dire Dieu est tout ce qui est. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Et comme Dieu est plénitude, Dieu est le bien sans opposé, l'amour infini, il n'y a rien d'autre. Et donc tout ce qui semble être autre n'existe pas. Et on commence un peu mieux à comprendre, alors qu'au début c'est un peu subtil et pas évident, c'est que nous sommes dans une expérience qui semble réelle, mais qui n'est pas réel. C'est un rêve. Et en fait, il n'y a pas de rêve. Mais nous semblons rêver. Et on semble, et on rêve à quoi? À la séparation. Et c'est tellement bien fait qu'on a oublié qu'on rêve. Et que c'est pas réel. C'est ce qui se passe dans le monde de l'ego. C'est pour ça que tous nos frères et sœurs, pas tous nos frères et sœurs, mais beaucoup encore, on arrive difficilement, encore aujourd'hui, en 2012, à cette notion de non-dualité, à cette notion de rêve, à cette notion d'irréalité des formes physiques. Et irréalité des formes physiques, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que c'est pas réel. Et alors pourquoi est-ce que c'est si important dans notre expérience? Parce que si c'est pas réel, justement, c'est pas mal. Comment est-ce que quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas réel, comment est-ce que ça peut avoir un impact réel? C'est impossible. C'est pour ça que le cours en miracle nous dit, entre autres, que c'est un cours en cause. Et la cause de tout, c'est notre création illusoire de la séparation. L'imagination d'une séparation qui est impossible. Nous sommes tellement divins à l'infini que la pensée que nous sommes ne connaît aucune limite. Et cette pensée, elle est joyeuse. Elle est créatrice. Et elle s'amuse avec elle-même. Et quoi de plus extraordinaire, de plus incroyable, de dire, tiens, jouons à imaginer quelque chose qui serait pas nous, on va imaginer un extérieur, quelque chose d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs, puisque tout est un. Mais nous sommes tellement puissants que cette simple pensée, avec la puissance de la divinité que nous sommes, du divin que nous sommes, elle est manifestée tout de suite. Et donc, c'est un jeu amusant. Et on rit. On nous dit d'ailleurs que dans l'autre monde, il y a des millions d'années, pour employer des mots qui nous parlent dans notre monde à trois dimensions, dans un temps qui n'existe pas, comme sont en train de le prouver nos physiciens quantiques. Bon, mais jouons au jeu du temps linéaire. Donc il y a des millions d'années, on a dit, vous avez joué à ce jeu de la séparation, c'était amusant. Vous rentriez dans la dualité, vous en sortiez à volonté. Comme des enfants qui jouent à se faire peur. On va à Disneyland, on va voir des monstres, et puis on rit, et puis on dit, on a bien peur. Et c'est simplement un jeu. Et on rit à gorge déployée, on s'amuse. Et comme dit le cours en miracle, tout a commencé quand le fils a oublié de rire à la pensée de séparation. C'est-à-dire que c'était tellement bien fait, tellement puissant, tellement ingénieux d'inventer le corps, l'illusion d'être un corps physique qui se balade dans un temps illusoire, un temps linéaire à trois dimensions, que c'est amusant, mais c'est tellement bien fait que peu à peu il y a oubli. Et que peu à peu on s'identifie au personnage, et que peu à peu on se croit vraiment séparé. Et que peu à peu on vit une expérience de séparation qui semble absolument réelle. Et ça, c'est pas nié, surtout pas. Donc, les 7 milliards que nous sommes, nous avons joué un jeu qui peut paraître incroyable, où on ne s'est jamais autant plongé dans une liberté de pensée absolue, d'imaginer la séparation à un tel degré. Ça s'était jamais fait dans cette galaxie, ça s'était jamais fait. Alors ça, c'est pas nié. Et donc, de voir que c'est si difficile apparemment d'en sortir, c'est parce que le jeu est très très bien joué. Et donc, je reviens, parce que j'ai commencé cette intervention en parlant de devoir quelque chose. Ce mot est employé pour dire que c'est inévitable, parce que nous sommes qui nous sommes. Parce que la séparation est impossible. Donc, on doit obligatoirement se réveiller. D'ailleurs, en éclatant de rire, en disant « mais personne n'a jamais dormi, c'était une blague ». C'est pour ça qu'un éveillé, ce qu'on appelle un éveillé, on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs, tout le monde parle d'éveillé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en réalité, un éveillé ne voit que des éveillés. Éveillé à quoi? Éveillé au Christ que nous sommes tous, sans aucune exception. Tout être est le Christ, et une manifestation du divin. Donc l'ignorance n'existe pas, le sommeil n'existe pas en réalité. Donc un éveillé ne voit que des éveillés. C'est pour ça que quand on se réveille, quand on se réveille notre dimension vraie à la réalité de qui nous sommes, eh bien nous voyons tout le monde avec nous. Et donc nous voyons que des éveillés. C'est bien clair. Alors, pourquoi est-ce que ça semble tellement ésotérique, tellement bizarre, tellement spécial, tellement particulier pour la plupart de nos frères et sœurs? C'est à cause de cette illusion qui est remarquablement faite, où vraiment nous sommes tous drogués. Alors on peut dire qu'effectivement, certains d'entre nous sont venus d'autres mondes, se sont réincarnés, ont replongé dans cet obscurantisme, on peut dire, cette illusion apparente, ce rêve. Oui, absolument, absolument. Et nous rêvons ensemble, seulement. Quand nous nous réveillons dans le rêve, nous sentons que nous rêvons un personnage illusoire, appartenant à un corps physique particulier qui a un certain âge, une certaine apparence, un sexe, un conditionnement social, familial, d'accord? C'est juste, c'est pas nier ça. Mais nous savons que nous rêvons. Nous savons que nous rêvons, et nous savons aussi que pour le moment, encore pendant un certain temps, Beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas conscience de rêver. C'est ok, ça fait partie du jeu. Mais quand nous nous réveillons dans le rêve, eh bien, il y a un pardon naturel qui se fait parce que nous savons que nos frères et sœurs pensent dormir, mais qu'en fait, en réalité, ils sont éveillés. C'est pour ça que on ne voit que des maîtres, on ne voit que des expressions de Dieu. C'est ce que Jésus appelait le Fils. Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le Fils. Nous sommes tous le Fils. Il n'est pas nié que dans ce temps illusoire, temporairement, certains rôles semblent être plus avancés que d'autres. C'est pour ça que Jésus parlait du sel de la terre. C'est pour ça que vous qui écoutez ces paroles, quelque part, souvent vous avez l'impression dans votre monde que vous êtes un petit peu en avance sur pas mal de vos frères et sœurs. C'est exact. C'est une illusion, mais c'est une illusion utilisée dans un processus de réveil. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus que vos frères et sœurs, ça veut dire que vous êtes un peu plus conscient que certains d'eux. Pourquoi vous êtes plus conscient? Ça, vous ne savez pas. C'est simplement un rôle temporaire. Je dis bien temporaire parce que le rôle sert à quoi? À se réveiller. À se réveiller à ce que nous sommes tous et ce que nous avons toujours été. Donc en réalité, il y a réveil, il n'y a pas réveil. Il y a éveil, il n'y a pas éveil. Quand quelqu'un dit, mais cette personne-là est éveillée, et quand vous serez éveillé, qu'est-ce que vous ferez? Mais c'est une fausse question, c'est l'ego qui pose cette question-là. Parce qu'en réalité, l'éveil, c'est de voir que tout le monde est éveillé. Donc personne ne s'éveille puisque tout le monde est éveillé. Vous comprenez? Donc ça n'empêche pas que apparemment il peut y avoir certains d'entre nous qui semblent être plus conscients que d'autres. Oui, ça c'est réel. Enfin, c'est réel dans ce rêve. C'est exact. Mais c'est temporaire. C'est pas la réalité. Alors, encore une fois, ce qui doit se faire ne peut pas ne pas se faire. C'est cette notion-là, cette notion d'obligation. Et quand le courant en miracle nous dit « Les seules lois sous lesquelles je suis, ce sont les lois divines. » Mais ce sont des lois de fonctionnement. Ce n'est pas des lois qui obligent à faire quelque chose. Ce ne sont pas des lois coercitives, qui forcent, qui obligent. Ce sont des lois de fonctionnement. Et les lois de fonctionnement, c'est la conscience. C'est nous sommes créateurs, que nous voulions ou non, nous sommes sans cesse en train de créer. Parce que nous sommes qui nous sommes. Parce que nous sommes un rayon de soleil du soleil central, nous sommes le Fils de Dieu, l'expression de Dieu, l'expression de la source, et que la source est esprit, dont nous sommes esprit, et que cette source est créatrice, dont nous sommes créateurs. Et ça, on ne peut pas le décréer. C'est pour ça que Jésus a employé cette notion de père et de fils. Pour bien montrer que le fils, c'est le fils du père. Et le père, c'est l'éternel, l'immuable, l'inchangeable. Le fils, il peut inventer tout ce qu'il veut, il peut imaginer tout ce qu'il veut, mais il ne changera pas le fait qu'il est le fils. Et donc, il est créateur. Donc, il peut créer, inventer, imaginer ce qu'il veut, en particulier la séparation, les conflits, les difficultés, tout ce qu'il veut. Il ne peut pas se décréer. C'est pour ça qu'il est bien la créature parfaite d'un créateur parfait. C'est un moyen didactique qu'avait employé Jésus. Si vous regardez bien, d'ailleurs, vous apercevez que dans les grands enseignements sur cette planète, c'est Jésus qui avait cette notion de père et de fils. Pas les autres, en général. Il n'y a pas les maîtres indiens, etc. Ils n'ont pas cette notion-là. Ça n'empêche qu'ils parlent de Jésus en plénitude, parce que quand on est en non-dualité, qu'on parle de Ramana Maharshi, qu'on parle de Jésus, qu'on parle de Rajesh ou d'autres, ou de Bouddha, ou quand on parle entre nous de cœur à cœur, en non-dualité, on se comprend très bien. Parce qu'on est au-delà de la séparation. Eh bien, au-delà de la séparation, il y a l'unité absolue de tout, il y a l'amour, il y a vraiment « je t'aime et tu m'aimes ». Et ça, c'est infini. Et ça n'a pas de limite. Et c'est pas limité à certains, c'est global, universel, total. Et même à l'heure actuelle, là, en 2012, en cette fin d'année, et ça va être en 2013 aussi, on va s'ouvrir davantage à d'autres mondes, d'autres multidimensionnalités, d'autres frères et sœurs de l'espace, qui sont aussi la même chose, qui sont sinon séparés. Et on va avoir des relations conscientes, amoureuses avec eux d'une façon incroyable. Et c'est déjà commencé pour beaucoup d'entre nous. Et vous qui entendez ces mots, vous pouvez le sentir au fond de votre cœur et sentir la justesse que je suis en train de dire. C'est des mots, bien sûr. Mais votre cœur, lui, il est au-delà des mots. Des mots sont utilisés, mais votre cœur vibre. Vibre à l'amour, vibre à qui vous êtes, qui nous sommes tous. Vibre à qui sont ce qui est chaque être dans l'univers, qui est une expression de la source. Ce que Jésus appelait le Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. À l'époque, ça n'a pas été compris, ou très peu compris par une infime minorité de maîtres d'éveillés qui étaient consciemment éveillés. Et on a mis 2000 ans. Et puis même ça avait commencé avant, avec Zoroastre, bien avant encore Bouddha, et puis ensuite Bouddha, et puis d'autres, et puis même Socrate 400 ans avant Jésus-Christ. Connais-toi toi-même, sa maxime, Gnotis Eoton, connais-toi toi-même. Ça veut dire connais qui tu es, sache, ouvre-toi à qui tu es. C'est là que ça se passe, c'est en toi. Alors cette notion de devoir, est-ce que Dieu doit quelque chose? L'infini ne doit rien à lui-même, il est en don lui-même à l'infini. Donc encore une fois, ces notions « je devrais » ou « ça devrait », etc., c'est faux. La seule chose dont ça doit être, c'est « ça ne peut qu'être cela ». La séparation ne peut pas se produire. Le réveil apparent dans un rêve illusoire est obligatoire, pour la bonne raison qu'il n'y a jamais eu de rêve. La séparation doit disparaître, pour la bonne raison qu'elle n'a jamais existé. C'est très fort ce dont nous parlons ici. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est très fort? C'est très fort par rapport à l'illusion dans laquelle on croit être. Parce qu'effectivement, on croit vraiment à cette séparation. Je dis bien, je parle, quand je dis « on », je parle de l'ego. Et moi, j'y crois quand je me laisse aller dans mon ego, dans le piège de l'ego. Et je suis tenté tout le temps, comme vous. Comme Jésus, il s'est tenté tout le temps. Jusqu'au dernier jour, il travaille sur ses pensées, parce qu'ici, ce n'est pas évident. L'illusion est très très forte. On les sent tentés à tous les coins de rue, partout. On rencontre des frères, des sœurs, on écoute ce qui est dit, les demandes qui nous sont faites. La tentation est forte de croire à la séparation. C'est fait exprès. Et c'est remarquablement fait. Alors, c'est pas étonnant que ça marche si bien, la séparation. Illusoire. C'est pour ça que ce dont nous parlons ici, pour le monde de l'ego, ça semble complètement marginal. Et en réalité, nous parlons de la réalité. Alors que le monde de l'ego, qui semble réel dans le monde de l'ego, est un monde illusoire. C'est vraiment la tête à l'envers dans un monde à l'envers. Et on a l'impression qu'on a la tête à l'endroit alors qu'on l'a à l'envers. Alors ça n'a pas d'importance en soi parce que ça ne change pas qui on est. Mais pourquoi est-ce que ça nous passionne tous? Pourquoi est-ce qu'on a un appel? Parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Parce qu'on a fait des milliers, des millions d'expériences. Et on s'est aperçu que ça n'a jamais fonctionné. Que la croyance à la séparation, ça n'a apporté que souffrance. Et que c'est vrai que nous avons connu beaucoup de joie, beaucoup de partage d'amour, de relations amoureuses merveilleuses. On a fait des choses ensemble, magnifiques. Mais dans l'amour, dans ce monde, sur cette petite planète bleue là, dans des milliers d'autres incarnations, dans l'amour. Et maintenant, on commence à vraiment l'intégrer. Alors évidemment, il n'y a rien à faire en soi, puisqu'il n'y a rien à faire pour retrouver qui nous sommes, sauf du lâcher prise. Mais justement, le lâcher prise, c'est du non-faire. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien. C'est du non-devoir-faire. Ça ne devrait pas être autrement, c'est fini, on ne dit plus ça. On ne dit plus c'est dommage. On ne dit plus je justifie ma peur. On ne dit plus je justifie ma culpabilité. On dit je note ma peur. Oui, effectivement, j'ai peur. Oui, effectivement, je doute. Je note mon doute. Mais je ne le justifie pas. Je ne dis pas que j'ai raison de douter. Je ne dis pas que j'ai raison d'avoir peur. Je ne justifie pas ma culpabilité. Je dis oui, je me sens coupable. Je me sens même à des moments terriblement coupable. Peut-être. Je note ça. Je m'accueille ça. Je m'accueille dans ma culpabilité, dans mon doute ou dans ma peur. Seulement, c'est ça l'amour. J'accueille cette condition humaine. Et j'accueille mes frères et sœurs avec ça et on se prend cet enfant intérieur qui finalement a un côté terrifié, terrorisé, qui a ses peurs, sa culpabilité, ses doutes. Et on dit « je te comprends ». Et on commence à se dire « mais au-delà de ça, je t'aime et je sais que tu m'aimes ». C'est le namasté, c'est « je reconnais qui tu es ». Mais qui tu es, c'est pas une somme de connaissances. C'est pas des actions bien faites, c'est pas un maître. Qui tu es, c'est l'amour. C'est l'enfant amoureux, c'est l'enfant qui a confiance à l'infini. Et ça, c'est une nouvelle relation. C'est là vers ça qu'on va. Ce 21 décembre 2012, c'est un portail s'ouvre. C'est un portail d'énergie, c'est vrai. Mais en fait, c'est un portail spirituel. C'est une façon de voir différemment. Une façon d'expérimenter les choses différemment. De manifester les choses de manière nouvelle. La réalité est ce qu'elle est, elle n'a jamais changé. Mais la manifestation, oui. Sur cette petite planète, là. Et on va vers le merveilleux. On va vers une joie d'être ensemble. Une joie de s'aimer, de se regarder dans les yeux, de dire « Mais vraiment, je t'aime et tu m'aimes et je ressens ton amour et quelle merveille !» Et puis, il y a la sœur à côté ou frère à côté, je vais dire la même chose. Et puis, celui qui est un peu plus loin et celle qui est un peu plus loin, je vais encore dire la même chose. Et puis, à chaque fois, c'est différent, c'est nouveau. Tout à l'heure, j'étais avec Juliana à la porte ici pour arriver dans le groupe, on a sonné, pour appeler à vie, pour nous ouvrir le portail. Et un homme est passé. D'habitude, il y a souvent des gens qui passent là et on ne parle pas, on ne dit pas bonjour. Là, j'ai senti de me retourner, de lui dire bonjour, de lui sourire. L'homme a paru surpris un quart de seconde. Son visage s'est éclairé, Juliana l'a vu aussi, et il a souri, il est parti, mais comme s'il avait le corps gonflé de joie. C'est l'esprit qui fait ça, c'est pas personnel. Et je vais partager encore quelque chose ici avec vous. C'est que tout à l'heure, entre 14h et 15h, Juliana et moi, nous avons été guidés à aller au Sacré-Cœur à Paris, à rentrer dans la basilique. Comme ça, pour rien, une guidance, on l'a senti tous les deux. Comme par hasard, on a trouvé une place à garer juste devant les escaliers. Ensuite, nous sommes montés jusqu'au fond, jusque derrière le cœur. Et là, on a senti tous les deux, sans se dire, de s'asseoir. Et là, on a reçu vraiment une douche d'énergie. Moi, j'étais un peu assommé. Et Juliana a canalisé Marie, la Vierge Marie, qui parlait à deux enfants. Qui étaient nous deux, mais qui sont aussi vous, parce que n'oublions pas, nous sommes un. Donc maintenant, nous partageons de plus en plus entre nous. Et si vous laissez votre cœur recevoir cette énergie, alors que vous êtes là, écoutez ces paroles, vous allez les ressentir. Parce qu'on est un ici. Et le réveil, c'est le réveil de tous. Et donc c'était ne craignez rien, c'était vous êtes accompagnés à chaque pas. Il n'y a pas de hasard. Toutes les situations, même si elles paraissent totalement invraisemblables, sont parfaitement planifiées par l'esprit, un esprit d'amour, qui ne veut que votre bien. Alors merci pour le rôle parfait que vous jouez. Merci d'avoir dit oui au rôle que vous avez choisi avant de vous incarner. Merci au rôle que vous avez joué ensemble dans d'autres vies avant. Merci pour ces retrouvailles. C'est pour vous qui écoutez ces paroles, c'est pas pour Juliana Sylvain, c'est pour vous. Les petites histoires personnelles, ça n'a aucun intérêt. Mais notre histoire ensemble, il n'y a que ça qui a un sens. Nous sommes un. Alors cette énergie que nous venons de recevoir, qui fait partie d'une énergie effectivement globale qui est déversée partout, mais qui se sert des outils, en particulier par exemple de ce groupe, en particulier par exemple de cet enregistrement. Et c'est comme ça partout, ça va être comme ça demain dans votre vie, ailleurs, dans d'autres circonstances. Mais là, nous sommes ensemble ici et nous accueillons ce qui est là maintenant, ensemble. Dans notre cœur, en respirant ensemble tranquillement, dans l'amour qui nous réunit, qui nous lie. Marie nous disait, elle vous dit à vous évidemment, c'est la même chose. Vous êtes mes enfants chéris. Vous êtes mes enfants chéris. Puis en même temps, c'est une sœur. Elle n'est pas plus que nous. Mais il y a un jeu qui est joué. Et on peut se dire les uns les autres, tu es mon enfant chéri, ou tu es ma mère chérie, ou mon père chéri. C'est ok. Tout ce qui parle à votre cœur, allez-y. Ne mettez plus de limites, ne mettons plus de limites. À nos jeux d'enfants amoureux. Et quelle joie de partager ces paroles avec vous. J'ai les larmes dans les yeux. Que vous êtes amenés à part, nous sommes amenés à partager les uns les autres de plus en plus nos expériences, de partager de l'amour spontanément, sans mettre de barrières, de limites, sans fausse pudeur, simplement comme des petits enfants. Vous avez pu remarquer que quand vous regardez un chien, un chat dans les yeux, vous regardez un tout petit enfant dans les yeux, vous pouvez rester une heure comme ça à le fixer. Et puis vous allez peut-être, ou souvent, avoir plus de mal à faire ça avec un adulte ou un adolescent. Pourquoi? Parce qu'il y a cette sensation que vous êtes jugé, sensation de rejet, sensation de jugement. Il n'y a pas dans les yeux d'un chat, d'un chien ou d'un tout petit enfant. Vous n'avez pas cette notion, mais ça vient de vous, ça vient de nous. Ça ne vient pas de l'enfant, ça ne vient pas du chat ou du chien. Ça vient d'un conditionnement, ça vient d'une séparation imaginée, ça vient d'un apprentissage de l'ego. Nous sommes venus ici, pas avec une ardoise vierge, mais c'est vrai que dans l'incarnation, le tout petit enfant, il est apparemment vierge. Il est vierge de sens de personnalité. Temporairement, sa personnalité, elle est cachée, elle va ressortir. Elle fait partie des expériences de son âme. Et elle va se refaçonner avec sa nouvelle vie, donc avec un conditionnement particulier. Et pour que le jeu soit bien joué, c'est pour ça qu'il y a effacement des mémoires anciennes, d'anciennes vies. Même si on va avoir des mémoires d'autres vies ou des choses, mais c'est tout à fait sporadique. C'est quelques petites notions. Si on dit par exemple, j'ai eu tel rôle à telle époque, c'est peut-être vrai. Mais une vie, c'est une somme d'expériences, d'instant en instant, c'est gigantesque, c'est des milliards d'expériences. Ça, on ne voit pas, on n'a pas accès à ça. Mais l'amour que nous sommes, ça c'est éternel. Dans toutes les vies qu'on a pu vivre depuis le début de l'origine, ce qu'on appelle l'origine des temps, que ça prend une origine en conscience, c'est une origine en voyage de l'âme, c'est pas une origine dans un temps qui n'existe pas. Mais il y a toujours eu que l'amour. La réalité n'a jamais changé, elle est éternelle et immuable. Alors, ensemble, on est en train d'aller vers, c'est vrai, une nouvelle ouverture fantastique sur cette planète. Une nouvelle Jérusalem, comme on dit, quelque chose de nouveau, d'inconnu, sur cette planète bleue-là. Quelque chose que nous co-créons ensemble. Avec, effectivement, d'autres êtres extraterrestres, multidimensionnels, des guides, ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est pas ce qu'on va créer, c'est le fait de créer ensemble. C'est l'état d'esprit qui est un esprit amoureux. C'est cette joie de s'aimer, de vivre, de faire des choses ensemble, dans un amour incroyable. Et donc, nous allons de plus en plus faire des choses, avoir des nouvelles manières de vivre ensemble, d'avoir de nouvelles énergies sur cette planète, de nouveaux contrats sociaux qui ne seront pas des contrats, mais des façons d'être ensemble qui seront beaucoup plus libres, beaucoup plus libérateurs, beaucoup plus riches. Mais ce qui est important, c'est pas les manifestations technologiques, ou les nouvelles lois, le nouveau système de fonctionnement. Ce qui va être important, c'est l'amour qui nous relie consciemment. C'est pour ça que cette évolution, ce portail, c'est un portail en conscience. Les énergies que nous recevons, ce sont des énergies intelligentes, conscientes, des énergies amoureuses, des énergies d'amour. Et il y a un processus d'éveil à ça, par quoi? Par l'amour. C'est pour ça qu'on a fait un travail d'amour qui a pris un temps fou apparemment. Et la seule réussite de ce travail, c'est l'amour. Donc l'amour était à l'origine, l'amour est le chemin et l'amour est le but. Et sera comme ça éternellement. Et l'amour, c'est qui nous sommes. Quelle joie quelle joie vraiment maintenant de s'étreindre les uns les autres. Et de ressentir, même avec des mots ou sans mots, ce je t'aime et tu m'aimes. Et c'est tout.
Moi, en fait, je vis un truc qui est, que pour l'instant, je trouve compliqué. C'est que les deux niveaux dont tu parles et dont on parle ici, dualité, unité, égo, et nous sommes tous un, amour, dans ma vie concrète, je vis les deux plans. Pas en même temps, puisque... Voilà, je vis les deux plans régulièrement. Et en fait, j'ai une telle mémoire du plan, de l'autre plan, enfin une telle... je sais pas comment expliquer, mais... quand je... Enfin... Quand je suis sur Terre, dans l'ego, etc., je suis pas dans l'autre plan. Enfin, là, je peux faire des va-et-vient, mais c'est vraiment pour moi, je vis les deux niveaux comme des niveaux quand même qui sont séparés. Et de fait, ils le sont quand même. Enfin, et je le vis tellement énergétiquement parce que c'est pas des voilà que à chaque fois je retombe et il y a une douleur quoi. Et des fois, je me dis même, mais j'ai arrêté de venir ici parce que sinon, je pleure tout le temps, c'est chiant. Alors que par ailleurs, avant, j'allais bien. Mais voilà, donc c'est vrai que des fois, c'est un peu. Et puis, c'est ma vie est comme ça, hein. C'est pas que quand je viens. Enfin, je dis, voilà, c'est. Donc, tout est comme ça. Alors, oui, c'est le chemin de l'éveil, oui, c'est. Mais. Si ça demande aussi en permanence. Enfin, je sais pas, moi, ce que je dis, c'est en permanence des renoncements humains tout le temps. Alors, des fois c'est chiant aussi. Parce que voilà, je suis, il y a beaucoup de renoncements humains pour l'instant. Alors sûrement pour m'offrir à l'amour. Voilà, on m'a parlé de l'amour. Voilà, que c'était aussi la douleur du qu'on appelle ça. Le cœur guérisseur. Enfin voilà, tout ça. Donc tout ça, oui, ok. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, voilà, que je dirais sur Terre. Et puis même quand j'entends parler, des extraterrestres, tout ça, ça me touche tellement que. C'est presque trop, en fait. C'est comme si j'avais des mémoires ou des connexions qui sont presque trop, trop pour, je sais pas, pour là où j'en suis, ou pour, ça va, non, je veux dire, il y a quelque chose qui est un peu trop, quoi. Trop dans, pour mon ego. Il a un peu de mal. Après, ça passe, mais voilà, c'est pas facile.
Merci Estelle pour ton partage. Et... alors je vais te partager quelque chose que j'ai reçu l'autre jour quand j'ai conduit Phoebe à l'aéroport. Sa voix lui avait dit « Ne prends pas de navette pour t'emmener, demande à Sylvain de te conduire ». Quand elle fait ça, quand elle part aux États-Unis, c'est arrivé depuis, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble, il y a toujours des messages. On prend du temps, on va se poser. Et là est venu un message spontané qui disait « Parfois Sylvain, et ça va tout à fait dans ton sens Estelle, parce que j'ai reconnu une sœur et on est nombreux ici, il y en a qui vont entendre ce que je suis en train de dire et qui vont le prendre pour eux, qui vont savoir que c'est pour eux, et ça peut les aider. » Parfois il peut sembler que Sylvain, pour ses frères et sœurs, semble un peu bizarre. Et parfois, c'est parce qu'en fait, il a des mémoires de d'autres mondes dans lesquels il a vécu, des mondes qu'il a quittés pour venir ici faire un certain travail sur cette planète. Ce n'était pas dit tout à fait comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et donc, il peut y avoir à un moment une nostalgie profonde des mondes qui ont été laissés derrière. Et quand j'ai vu tes larmes, Estelle, j'ai vu ça, tout de suite. Et voilà, donc... il est dit à la fin du message d'ailleurs, la connexion est prévue, patience. Voilà. Alors je te passe le message, je passe aussi à ceux qui veulent bien entendre. Et qui bien entendre. Ouais. Ouais. Le cours en miracle dit, et Jésus dit, et c'est non même dans les évangiles, le ciel, c'est dans la Bible, le ciel et la terre passeront. Ça veut dire, en fait, ce qui est cité dans la Bible, c'est le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et Jésus, quand il dit dans le cours en miracle, il cite ça, parce qu'il explique certains passages de la Bible, à des moments ça vient dans le texte. Et il cite simplement, le ciel et la terre passeront. Ça veut dire, ils cesseront d'exister en tant qu'état séparé. Or, tu viens de nous décrire un état où il y a des moments où je suis dans le ciel, et des moments où je suis sur la terre, dans l'ego, dans la séparation. Et j'en peux plus. Donc, on va vraiment à un réveil, et là, ici, sur cette planète, et le ciel et la terre passeront, c'est-à-dire qu'ils cesseront d'exister en tant qu'état séparé. C'est-à-dire, on va continuer dans le rêve, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on rêve en sachant qu'on rêve. Et on rêve dans l'amour. C'est un rêve d'amour. Alors on sait que c'est pas réel, c'est ça, mais on est beaucoup plus dans la paix. C'est ce vers quoi on va. C'est pour ça qu'on nous parle tant de confiance, Estelle. Parce que c'est pas évident. Et quand je te vois pleurer, mais j'ai des larmes avec toi, je te comprends. Et on est nombreux à te comprendre. Et d'ailleurs, on va dire qu'on te comprend tous. Et on te remercie pour ton partage, parce qu'on connaît ça. C'est très concret. Donc patience. C'est pour ça qu'on nous parle tout le temps de confiance, de patience, de confiance. Il y a une raison. Il y a une raison, c'est parce que c'est pas évident. Alors, quand je les ai pensés, là, je les ai comme toi. Qu'est-ce qui se passe en moi? Ah là, j'ai prise, Estelle. Je dis, bon, tant pis, j'accueille l'expérience. Ça me fait mal, mettons, j'ai quelque chose, je me dis, mais j'ai vraiment déraillé, là. J'ai pris la mauvaise décision, je m'accueille là-dedans. Je dis oui, ok, merci pour l'expérience. Merci pour l'expérience. Quand j'ai failli en 84 avec 3 enfants en bas âge, une faillite, mais une tornade, un désastre financier, des dettes colossales, j'étais là, merci pour l'expérience. Merci pour l'expérience. J'avais mal au ventre, j'avais très mal au ventre pendant 2 ans. Je ne dormais pas la nuit pendant tous l'année 83 et les débuts de l'année 84. Et... merci pour l'expérience. J'aime pas trop raconter ça parce que je suis obligé d'en faire une histoire, mais il n'y a pas d'histoire. On ne vit jamais une histoire. On vit dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, effectivement, je peux dire que je disais souvent merci pour l'expérience. J'avais souvent le désespoir, je me sentais perdu, je ne savais pas que j'étais en faillite. Mais j'étais complètement dans la confiance. Ou du moins dans une intention de confiance. J'étais consciemment, c'était en 84, depuis 74, ça faisait plus de 10 ans, j'étais consciemment dans la... Il y avait que ça qui m'intéressait. Le message divin, ce qu'on est venu faire ici, la confiance, l'amour entre nous. est au-delà des possessions matérielles et tout ça. Et donc j'en étais très conscient. Mais ça ne niait pas ma vie, avec des affaires, des employés, des enfants, de l'argent, des relations. Mais vécu seconde par seconde dans l'instant, et c'est ça, j'en viens là, il n'y a pas d'histoire. On fait des histoires du passé, on raconte une histoire, ça a duré, je parle de 84, je vais parler de 74, je vais parler de 2012, de 2005, etc. Ou de 97 quand j'ai reçu les soins NELF par exemple. Mais ça c'est des histoires. Mais on ne vit pas d'histoire. On vit une expérience présente à l'instant présent. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça pour les 7 milliards que nous sommes, c'est comme ça pour tous les êtres. Alors on nous dit qu'on nous devient multidimensionnel et qu'on peut aller dans le passé et dans le futur. Mais on y va quand? Maintenant. Donc c'est une dimension de conscience. Mais la dimension de conscience, elle est consciente maintenant. Et c'est toujours maintenant. Alors, on t'a pris dans nos bras, Estelle, en disant, mais merci de ton partage, on te comprend. Et puis finalement, on a confiance pour toi, en sachant que toi, t'as confiance. Parce que quand on a confiance pour toi, ça veut pas dire qu'on a confiance à ta place. C'est-à-dire on a confiance dans le fait que ton âme profonde a confiance et qu'elle se réjouit. Ton âme profonde a choisi cette expérience, point par point, détail par détail. Ton âme profonde, elle est heureuse. Elle a voulu faire ces expériences. Quelque part, elle se réjouit tout le temps. Alors tu t'endors le soir, ok, tu dors, tu travailles le matin, allez, le décor se remet en place, le petit personnage Estelle se recompose, avec la journée dans laquelle on est, les choses à faire, les relations, etc., tout ça. Et puis, ça te paraît lourd par moment. On connaît ça tous. Tous. Mais de plus en plus, maintenant, on se réveille. C'est ça, ce qui se passe en 2012, là, le 21 décembre. Bien sûr, c'est symbolique. C'est symbolique, en même temps, c'est réel, parce qu'il y a de sacrées énergies qui sont déversées. Ça, c'est pas nié. Mais c'est déversé pourquoi? Pour la joie, justement. On est dans la dernière ligne droite, on arrive. Alors, évidemment, on est très encouragé parce que souvent, les derniers mètres, c'est un peu les plus durs. C'est un peu comme un avion qui part pour une destination. L'avion, il est tout le temps, un avion en réaction qui part, il est tout le temps en réajustement de trajectoire. Il n'est jamais fixé sur le but. Il est toujours légèrement à droite, légèrement à gauche, légèrement à droite, et puis là, son pilote automatique. Mais au moment où il va atterrir, il doit faire très attention. À ce moment-là, les pilotes sont là, ou sur les instruments s'il y a du brouillard, mais et c'est une attention précise, et là il n'y a plus de, on ne dévie plus, on est axé sur l'atterrissage. C'est un atterrissage qui va vers une joie incroyable. Mais évidemment on ne peut plus faire d'erreur, on ne peut plus se permettre de détour. C'est ce que tu ressens. Et tu le sais. C'est pour ça que tu as cette tristesse souvent, dire oui bon sang, c'est finalement là je suis dans le noir, je suis dans le. Je vois pas clair, je suis pris par l'ego, j'ai l'impression que toutes ces choses matérielles, ça m'accapare, etc. Je me fais du souci, j'ai des doutes, je me sens coupable ou j'ai des peurs. D'accord. Mais en fait, on constate les uns les autres qu'on est réadapté tout le temps, sans cesse, on est remis sur les rails. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus lent, maintenant, c'est extrêmement rapide. Alors c'est ce message d'espoir qu'on se partage les uns les autres. On se donne la main. C'est pour ça qu'on se donne la main. On dit bon, allez, on est ensemble. Et on se rappelle qu'on est ensemble dans l'instant présent. Et que même la soukou va se terminer tout à l'heure. Nous allons rentrer chez nous. Vous aussi qui êtes devant votre ordinateur à écouter ces paroles, vous allez fermer l'ordi, faire autre chose. Mais on reste ensemble. Tout à l'heure quand j'ai partagé le message que Juliana et moi nous avons reçu avec Marie au Sacré-Cœur, eh bien, j'ai senti cette présence, que c'est ensemble qu'on a reçu le message. Et c'est ensemble que vous le recevez en même temps. En ce moment, je veux dire. C'est toujours ensemble qu'on fait les choses. Parce qu'on est un, on n'est jamais séparés. On n'est jamais, jamais séparés.
Alors, quand tu parlais, Estelle, une phrase m'est venue, issue d'un cours en miracle, que je trouve très soutenante. Et elle dit, « Seule une patience infinie donne des résultats immédiats. » Je trouve ça magnifique, cette phrase, apparemment très paradoxale. L'ego, il comprend rien, il est dans le potage. C'est le royaume de l'ego, de toute manière, le fait de bricoler des solutions qui sont la plupart du temps boiteuses, bancales, qui ne marchent pas ou qui marchent un petit moment. Donc, étant le maître de l'illusion, l'ego crée aussi des illusions de bonheur. Puisqu'on ne peut pas avoir un vrai bonheur dans un monde illusoire. Donc, il faut choisir son camp. Dans l'unité, il y a l'amour absolu sans aucun opposé. Et dans le monde de l'illusion, il y a des illusions d'amour, c'est-à-dire de l'amour avec des conditions ou des bonheurs temporaires. Ouais, j'ai gagné l'auto et puis 6 mois plus tard, mince, j'ai plus rien. Donc seule une patience infinie donne des résultats immédiats. Et une patience infinie, c'est regarder autrement la situation. C'est être patient à l'infini, c'est aussi s'extraire du temps. Hein. C'est aussi pouvoir dire, je ne comprends rien à ce qui m'arrive, mais j'ai une confiance infinie. Et dans cette confiance infinie est le résultat immédiat. C'est-à-dire un lâcher-prise du fait que c'est moi qui gère la situation. C'est pas moi qui gère la situation. Si je crois gérer la situation, c'est que l'ego, temporairement, s'est emparé de la situation et dit « T'inquiète pas Estelle, tout est sous contrôle. Je vais m'en occuper. » Voilà. Et il y a des raisons de s'inquiéter quand c'est l'ego qui s'occupe d'un problème. Parce qu'il peut créer un problème dans le problème, avec le problème. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de problème et qu'avec une patience infinie, tu peux juste le reconnaître que c'est temporairement une expérience qui a pour but de t'apprendre quelque chose, mais qu'en elle-même, elle constitue un enseignement. Et un enseignement n'est jamais un problème. Il n'est jamais opposé à une solution. Un enseignement, c'est une vérité qui est dite. Alors parfois, c'est... Elle est bien enfouie, la vérité. Il faut creuser sous plusieurs couches pour enfin trouver sa lumière. Et c'est, ça peut être des couches de charbon, hein. Bien noires, les mains dans le cambouis. Hein. C'est le but hein, de la dualité. C'est dans le cambouis, dans le charbon, trouver le diamant. Enlever la gangue hein, qui est autour de la lumière du diamant pour enfin le laisser resplendir. Alors, il me vient de vous partager un rêve du 21 décembre 2012. J'ai jamais vécu un rêve comme ça. Et il est tout à fait symbolique. J'ai pas compris tout de suite son sens, mais alors, quand il m'est apparu, waouh! Je suis quelqu'un qui ne se rappelle pas de ses rêves si facilement. Donc, certains rêves, pour moi, ne sont pas des rêves, parce qu'ils ont une telle empreinte dans ma mémoire que c'est des rêves lucides, c'est des expériences, je ne sais pas, tout à fait particulières, parce que je me réveille et je suis plein de ce rêve. Alors, c'est très court. J'étais dans un train en voyage qui m'amenait à une gare. Et lorsque je descends du train parmi la foule nombreuse de la gare, je m'aperçois que j'ai sur moi seulement un t-shirt, et après ça, je suis nu. Et comme le t-shirt couvre mon torse, mais pas le bas, je suis gêné, et je tire sur le t-shirt pour pas montrer ma nudité. Et je me dis, mince alors, tout le monde me voit. Et... Je vois tout d'un coup un panneau WC. Je dis « Ah, super !» Je me dis « Pourvu que ça ne soit pas occupé, et puis je vais y aller, je vais me changer. » Et tout d'un coup, je réalise que j'ai laissé ma valise dans le train. Alors, ça s'arrête là. Et ce que j'ai compris, c'est quelque chose de puissant. Je suis dans un train qui m'amène ailleurs. que là d'où je suis parti. Hein. J'arrive au bout de mon voyage. Et j'arrive nu, j'arrive sans rien. Et ils sont gentils, ils m'ont laissé un t-shirt. Et on dit, tiens voilà, débrouille-toi avec ça. Et tout ce que j'avais amené avec moi, je l'ai laissé dans le train. C'est-à-dire que j'arrive dans un endroit nouveau, j'arrive nu, et j'arrive sans aucun bagage. Et pour moi, c'est j'arrive dans un monde nouveau, j'arrive dans le nouveau monde, et j'ai laissé tous mes bagages intellectuels, tous mes savoirs, tous mes conditionnements, je les ai pas pris avec moi dans le train. J'ai pris seulement un t-shirt. Alors ce matin, je me suis dit, c'est bien pour la lessive, ça va être cool, j'ai juste un t-shirt à laver. Mais voilà, c'est très symbolique hein, pour moi. Ce train, il c'est pas l'ancien monde du nouveau. Et quand j'arrive dans le nouveau, je choisis inconsciemment d'ailleurs, d'oublier ma valise qui contient tout ce que je sais et de laisser avec tous mes vêtements, presque, qui servent à masquer qui je suis. Donc il y a énormément de symboles. Hein. Pour moi, je me suis réjoui d'avoir fait ce rêve-là en ce jour-là et en cette nuit qui sépare ces deux jours. Donc voilà, c'est un message. Hein. Pour moi, c'est un message. Comme disait un certain rabbin, l'intelligence absolue, c'est de reconnaître qu'on ne sait rien et de s'en réjouir. Et donc, j'arrivais à la gare, et j'avais plus de bagages, j'avais plus de certitudes, j'avais plus de vêtements, et j'arrivais complètement dénudé hein, dans ce nouveau monde. Donc super, super. Au niveau des symboles, là, je suis complètement comblé. Hein. Quand je descends du train, est-ce que je me dis cette valise ne m'appartient pas? Cette valise, c'est l'héritage de tout ce qu'on m'a toujours dit, de tout ce à quoi j'ai cru. Et j'ai le choix de la laisser dans le train ou de la transporter avec moi pour la transmettre à mes enfants, à mes petits-enfants, en leur disant, rappelle-toi de dire bonjour à la dame, hein. Rappelle-toi de traverser dans les clous, rappelle-toi que ceci se fait et que ceci ne se fait pas, rappelle-toi de ne choquer personne avec ce que tu dis, rappelle-toi de dire comme moi je t'ai appris de dire, mais pas comme toi tu sais dire. Donc des tas de choses qui m'encombrent plutôt que qu'elles me laissent libre. Donc voilà, je me réjouis d'avoir laissé ça dans le train et je me réjouis d'être arrivé pratiquement sans protection dans un monde nouveau dans lequel je vais pouvoir apprendre des nouvelles vérités sans être encombré par les anciennes. Donc il y a en très peu de scènes, ce rêve-là m'a beaucoup porté, hein, m'a beaucoup appris. Et je me réjouis d'avoir reçu ce message hein, pendant cette nuit. Et d'ailleurs, j'avais besoin de dormir. Je me suis levé tard. J'avais besoin de dormir. J'avais envie d'y retourner sans arrêt. Et je replongeais. Et voilà, j'aurais pu dormir toute la journée. J'ai l'impression tellement j'avais besoin de me reposer cette nuit-là.
Avis juste pour te dire que il vient de me venir une vision du sens du t-shirt très forte. Le t-shirt est fait exprès pour pointer sur quelque chose. Il pointe justement sur le sexe, qui est la seule chose qu'on veut cacher, alors qu'en fait l'être humain est un tout global, et que dans notre folklore ici, dans notre monde occidental et oriental, on peut montrer n'importe quoi, un genou, une fesse, un pied, ce qu'on ne fait pas un sexe. Et le nouveau, c'est vraiment l'amour inconditionnel où rien n'est caché, puisque tout est amour. On ne cache pas l'amour, on le vit, on l'exprime, on le donne, on le manifeste. Donc pour moi, le t-shirt, souvent l'esprit fait ça, il pointe justement sur le bas là. Là, c'est là qu'il faut regarder. Et ça, maintenant c'est l'heure. C'est l'heure de souffrir, de l'aimer.
et de s'ouvrir à ça, c'est tout. Comme un enfant, comme un tout petit enfant, qui fait la même chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Oui. Et puis il y a cette phrase que tu cites, Sylvain, de temps en temps. Dans notre monde, dans la bataille des t-shirts blancs contre les t-shirts noirs, qui va gagner? Voilà. Et la réponse, c'est les t-shirts blancs, parce qu'en fait, il n'y a pas de t-shirt noir. Tout le monde a un t-shirt blanc. Et moi aussi, ce jour-là, en descendant du train, j'avais un t-shirt blanc. En vérité, il était blanc, dans mon rêve. Donc, c'est notre création, c'est notre invention que certains sur Terre portent des t-shirts noirs et qu'il faut les combattre, qu'il faut les annihiler et que c'est à éradiquer, c'est à circonscrire, c'est à... Non. Ils portent des t-shirts blancs, ils sont des êtres dignes d'amour, ils sont nos frères, quel que soit le rôle qu'ils ont choisi de jouer, et parfois, justement, à cause du rôle courageux qu'ils ont choisi de jouer. Parce que plonger à ce point dans la dualité, en endossant des rôles courageux de cette nature, voilà, c'est pas si simple. Et pour certains, il y a eu des vies où ils étaient des personnages saints, pleins d'amour et de générosité, de compassion. Et dans d'autres vies, ils ont expérimenté d'être des criminels, hein, parce que tout a pour but d'être expérimenté. Et nous expérimentons pour étendre la conscience, pour fabriquer davantage à partir de qui nous sommes. Et dans bien des enseignements canalisés qui nous arrivent actuellement, on nous dit, vous apprenez la dualité, vous plongez dedans pour la dépasser, pour la circonscrire, pour la transmuter, pour l'aimer, et ensuite aller l'enseigner dans des mondes où la conscience est inférieure. Vous servirez de guide dans cette dualité. Pour servir de guide, nous devons maîtriser le sujet. Et le sujet est apparemment assez bien maîtrisé sur cette terre. C'est-à-dire que nous avons vraiment plongé loin, profondément, dans les tenants et les aboutissants de la dualité. Hein, nous sommes allés dans des extrêmes, parfois. Et tout ceci a un sens. Hein. La dualité, elle peut être aussi chérie, parce que c'est un outil de transmutation dans notre monde et dans d'autres mondes qui aussi veulent faire grandir la conscience en se servant de cet outil. Bien sûr, c'est un trajet illusoire, un voyage sans distance et sans temps, puisque tout ça est déjà accompli. Mais nous rêvons d'être séparés pour profiter du bonheur de faire le chemin du retour. Et ce qui compte, c'est pas l'endroit du retour, c'est le bonheur de faire l'expérience. Et ceci est non duel, parce que l'expérience, c'est ce que je ressens dans le trajet, dans ce trajet sans distance. Et notre âme est une grande collectionneuse d'expériences. Et notre âme ne juge pas les expériences. Hein, notre âme emmagasine. Hein. Voilà, je veux connaître ça. Je veux aussi connaître la joie. Je veux aussi connaître la haine. Et tout est bienvenu. Il n'y a que nous, au niveau de l'ego, qui disons, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Ça j'en veux encore, ça j'en veux plus. Au niveau de l'âme, tout est bienvenu. Tout est chéri. L'âme ne juge pas. Pas plus que Dieu ne juge notre expérience. Elle collectionne et ensuite elle envoie aux annales akashiques. Elle envoie à l'inconscient collectif ou à la conscience collective qui simplement est une grande bibliothèque. Voilà. Ça, hop, je le stocke. C'est un grand réseau cybernétique. C'est un univers à part entière, la conscience collective, qui stocke pour des informations pour s'y référer ensuite en tant qu'expérience. Et chaque expérience que chacun de nous fait est partagée par tous dans cet inconscient collectif. C'est pour ça que nous sommes reliés même à des choses que nous n'avons pas vécues directement, elles ont un impact sur nous, hein, comme les génocides sur Terre et d'autres choses. Il y a une fusillade aux États-Unis, nous sommes en France et pourtant nous sommes impactés. Hein. Il y a quelque chose de, au niveau émotionnel qui nous relie, hein, en tant qu'humanité une. Et c'est cet inconscient collectif. Alors j'ai ouvert tout à l'heure ce très beau livre qui m'inspire de plus en plus et à chaque page, qui est l'Évangile selon Jésus de Paul Ferrini. Et j'ai retenu ce passage lorsque dans le chapitre 2 qui s'appelle Apprendre à écouter, Jésus dit quelque chose de très enseignant pour moi. Que de temps vous perdez à chercher les réponses à vos problèmes à l'extérieur de vous-même. Si vous preniez simplement le temps d'être avec vous-même, les réponses apparaîtraient spontanément. Apprenez à être présent à votre expérience. Être présent n'est pas une activité analytique. Reconnaissez que vous ne pouvez pas donner sens à votre expérience. Vous pouvez soit y être présent, soit l'intellectualiser, ce qui est bien sûr une échappatoire. À tout instant, vous recevez des indications précieuses capables de vous aider à remettre votre vie sur les bons rails. Mais vous n'entendrez pas ces suggestions si vous ne prenez pas le temps d'écouter. De manière ironique, c'est précisément quand vous tentez le plus désespérément de trouver un sens à vos problèmes et d'y remédier, entre guillemets, que vous avez le plus besoin de faire le calme en vous et d'écouter. Vous risquez tout d'abord de ne pas vous en rendre compte, mais il finira par vous paraître évident que plus vous tentez de comprendre les choses, plus elles s'embrouillent. C'est lorsque vous n'essayez plus de faire fonctionner votre vie selon vos propres critères que vous arrivez à avoir l'ouverture nécessaire pour recevoir la guidance spirituelle intérieure. D'habitude, lorsque vous foncez dans le mur, la réponse que vous recevez ressemble à « Ralentis, regarde autour de toi ». Même si cette guidance ne semble pas si profonde, c'est le début de la rectification. Tant que tout se passe bien dans votre vie, inutile de chercher à rectifier. Mais lorsqu'il y a des turbulences, vous feriez bien de vous arrêter un instant pour réfléchir à l'orientation que vous avez prise. Une introspection faite à point nommé peut faire une grande différence dans votre vie. Il arrive que la réalité extérieure se bouche simplement autour de vous et le seul endroit judicieux où aller est en soi. Je ne vous demande pas de méditer 2 heures par jour. Je ne vous dis pas non plus que la méditation n'est pas utile. Je dis simplement qu'il y a des moments dans la vie où vous avez besoin d'être au calme et d'écouter. Si vous apprenez à respecter ces moments, vous vous épargnerez beaucoup de tourments. Plus vous apprendrez à développer cette écoute intérieure, et plus vous vous mettrez à être présent à votre expérience à l'instant où elle survient. Vous développerez une relation associative avec votre vie, l'enthousiasme de participer, de ressentir et de vivre ce qui se présente. La vérité, c'est que l'existence n'est ni une bénédiction ni un châtiment. Elle œuvre à vos côtés pour vous seconder dans votre éveil à la vérité. C'est d'elle que vous apprenez, elle qui vous renvoie constamment la balle pour rectifier. Voilà, je trouve ça magnifique. Il y a des instants où nous choisissons de nous arrêter, et il y a d'autres instants où nous fonçons tellement la tête baissée que c'est là l'épreuve ou la douleur ou l'accident ou la rupture qui nous force à nous arrêter. Parce que la souffrance n'est pas obligatoire ni inévitable. La souffrance vient en dernier recours lorsque nous nous bouchons les oreilles et nous nous refusons à voir la vérité en face, à voir la solution qui est là, qui est devant nous, qui nous est susurrée par la voix subtile de notre âme. Mais nous faisons tellement de bruit avec notre ego. T'aurais pas dû. Et en même temps, je n'écoute pas une voix douce qui me dit « Calme-toi, voilà. Regarde en toi. L'autre n'a rien fait. Pourquoi tu réagis comme ça ? Voilà. Qu'est-ce qui souffre en toi ? Qu'est-ce qui veut détruire l'autre ? Qu'est-ce qui n'a pas assez d'amour pour croire à la beauté de l'autre ? Et ça ne concerne pas l'autre, ça te concerne. Mais parfois j'ai besoin de tomber malade, parfois j'ai besoin de perdre un proche, parfois j'ai besoin qu'on me quitte avec perte et fracas, parfois j'ai besoin d'éprouver la haine pour m'arrêter et réfléchir et me dire, me poser cette question simple, pourquoi ça m'arrive maintenant ? Ou pourquoi ça m'arrive tout le temps ? Pourquoi l'année dernière ça m'est déjà arrivé, je me dis bon, elle ça va pas, je vais en prendre une autre, ça ira mieux. Mais j'ai choisi la même catégorie et ça m'arrive à nouveau. Oh mince, alors j'ai encore pas choisi la bonne. Bon, je fais encore un autre choix. Puis ça va pas jusque au jour où je me dis peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui ne regarde pas. Hein, qu'est-ce qui m'est proposé comme expérience ? Et la seule question aussi qui peut m'arriver, c'est au fond de moi, qu'est-ce que je veux vraiment ? Hein, au fond de moi, c'est pas avoir raison avec cette personne. T'aurais pas dû partir. Tu vas aller en enfer. Je te condamne. Je te condamne, ça veut dire je me damne avec toi. Condamné, ça veut dire je profite de ton billet. Aller pour l'enfer, il n'y a pas de retour. Hein? Je vais dans les flammes éternelles, brûler un petit peu avec toi. Rôtir. Voilà, parce que je te souhaite le pire, hein, quand je fais ça. Et bien sûr, quand je te souhaite le pire, en moi, je vis le pire, et c'est pour ça que je suis damné en même temps. C'est pour ça que je suis à l'intérieur coupable autant que je te mets cette culpabilité sur le dos. Je peux pas te rendre coupable si je me sens pas coupable. C'est parce que je me sens coupé de l'amour, et coupé et coupable ont la même racine, que cette culpabilité que je ressens est tellement inconfortable que je te la projette, je te dis, tiens, cadeau, est-ce que ça va mieux te convenir qu'à moi ? Mais en vérité, je ne m'en détache pas en la projetant sur toi. Et nous la partageons à ce moment-là, si tu l'acceptes, hein, si tant est que tu l'acceptes. Donc, le mécanisme de la projection est puissant, hein, et ne guérit rien. Hein, ça, c'est une illusion de aller mieux momentanément. Hein. Je me sens inconfortable avec la culpabilité et je crois que en te la projetant dessus, je vais aller mieux. Et ça ne marche pas. Et l'alternative, c'est le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est ni toi ni moi ne sont coupables. Donc, je nous ai guéris tous les deux, en nous aimant tous les deux. Je nous aime. Hein, c'est la phrase qui me venait hier dans les chants et l'intimité qui était là tellement profonde. Et il m'est venu, je nous aime. Parce que, en vérité, tu ne m'as rien fait. Et en vérité, tu es un être d'amour autant que moi, mais je l'ai oublié. Et l'instant où je le reconnais, à cet instant-là, c'est terminé. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de faute, il n'y a plus de jugement, il ne reste que l'amour. Et le vrai pardon, c'est reconnaître que je croyais que tu m'avais fait quelque chose, mais en vérité, tu es là pour m'aider à choisir. Et donc, je te remercie. Je te remercie de ce rôle parfait que tu joues. Et tu es un frère, une sœur de lumière qui a pris un costume et qui a endossé un rôle et qui t'a demandé, et maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu veux encore choisir la peur ou est-ce que tu peux maintenant choisir l'amour en toute connaissance de cause? Et je te remercie infiniment, dès que je le reconnais, d'avoir joué ce rôle qui vise à me faire sortir du rêve, à me réveiller de ce rêve qui prend parfois des allures de drame et de cauchemar, parce que c'est une comédie à laquelle nous avons oublié de rire et nous avons fabriqué ce qu'on appelle une comédie dramatique dans le genre de cinéma. C'est une comédie qui vire au drame ou qui s'inspire du drame. Voilà, maintenant que nous le savons, nous pouvons en rire, toi et moi, toi que j'incriminais, et moi qui maintenant le reconnais avec beaucoup de présence au rôle parfait que tous nous jouons ici.
Je viens de parler des qualificatifs que nous donnons les uns les autres, que nous donnons aux uns aux autres spontanément et à nous-mêmes. Dans le nouveau monde que nous commençons à vivre de plus en plus, ces qualificatifs vont disparaître. C'est pas est-ce que je suis végétarien? Je suis rien. Je vis l'instant présent. Je suis dans l'amour, donc je fais ce que je sens de faire. J'accueille aussi dans l'amour ce que fait mon frère ou ma sœur à côté de moi, ou en face, ou plus loin. Et donc je ne dis pas que mon frère ou ma sœur est végétarienne, ou autre chose, vegan, ou ce qu'on veut, ou même thérapeute. Bien sûr, je ne nie pas les apparences, je ne lis pas un certain métier. Quelqu'un fait de la musique, il est musicien, d'accord, c'est joué. Mais quelque part, son côté musicien, c'est une apparence, c'est quelque chose qui se passe. Mais est-ce que le Christ est musicien et puis pas thérapeute? Est-ce que le Christ est végétarien et boit de l'alcool ou pas d'alcool. Et donc, peu à peu, ces qualificatifs disparaissent. Et on se rend compte que, lorsque je reste dans les qualificatifs, je continue à donner une valeur, positive ou négative, à certaines formes. Et c'est l'illusion. Les formes sont neutres. J'ai moi qui crée les formes. En fait, les formes sont pas réelles, elles sont imaginées. Encore une fois, comment est-ce que quelque chose qui est imaginé peut avoir un impact? C'est pas réel. Donc ça peut être ni bien ni mal. Manger de la viande ou pas de la viande, c'est ni bien ni mal. Cela est, c'est quelque chose qui se passe. C'est vrai que on s'aperçoit que de plus en plus d'entre nous, on dit c'est drôle, je mange moins de viande. C'est drôle, ou je prends plus d'alcool, ou j'en ai jamais pris, ou tiens, je me suis arrêté de fumer spontanément, ou peut-être je me suis battu pour m'arrêter de fumer, mais j'ai senti d'arrêter de fumer, etc. C'est possible. Mais ça ne veut pas dire que fumer est mal. Et comment fumer n'est pas mal, mais il y a les cancers, etc. Oui, effectivement, c'est des croyances. Les croyances, c'est nous qui les faisons. Et on vit nos croyances. La maladie, c'est une croyance. Alors effectivement, on vit le cancer, on vit le sida, on vit tout ça. À un niveau extrêmement complexe. C'est des choix d'âme. Mais l'âme, elle est toujours heureuse. Et quand l'âme choisit un sida, choisit de mourir d'un cancer du poumon, parce qu'on a beaucoup fumé, etc. C'est une expérience, c'est tout. L'âme, elle s'amuse. Et donc, tous mes frères et sœurs sont en amusement au niveau de l'âme. Or, quelle est la seule réalité, mes frères et sœurs? C'est l'âme. J'emploie le mot âme parce que j'ai pas d'autre terme. On ne sait pas très bien ce que c'est que l'âme. C'est l'esprit, c'est qui nous sommes, c'est le divin que nous sommes. Par exemple, Jésus va appeler ça le Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. On peut dire aussi qu'il n'y a qu'une seule âme. Dans le livre des best-sellers de Neil Donald Walsh, il parle de l'âme, par exemple, et il dit, mais, et une âme, et puis, où est la limite entre une âme et une autre âme? Puis alors, il est amené comme ça à voir, et puis peu à peu, ben, il dit, ben, on sait pas, ça s'interpénètre, et puis finalement, il n'y a qu'une seule âme. C'est encore des façons d'exprimer quelque chose qui est au-delà de l'exprimable. Alors, les qualificatifs que nous nous donnons, par exemple, un tel est colérique, ou une telle fait ça, a l'habitude de faire ça, a beaucoup de mal à revenir, ou est très touchée par une émotion et puis va rester des jours dedans. Quelque part, de plus en plus, on arrête ça. Je ne sais pas. Je libère mon frère ou ma sœur. J'arrête inconsciemment de le mettre ou la mettre dans un moule, ou dans des habitudes de fonctionnement. Et c'est ça le pardon, le vrai pardon. Donc je ne donne plus de qualificatif. Bien sûr, je dis, ok, tiens, qu'est-ce que tu fais? Oh ben, je fais de la musique. Ah bon, quel instrument? Bien sûr, je joue là. Tiens, un autre, non, il fait de la permaculture, il fait ceci, cela, ou il vient de créer un produit nouveau, ok. Ou il est notaire, très bien, c'est pas nier ça. Mais ce n'est qu'une apparence, ce n'est que quelque chose qui se passe, qui fait partie d'une expérience. Et comme on est un, quelque part l'expérience des autres, elle est propre aux autres, c'est vrai. On ne peut pas partager l'expérience, et en même temps c'est mon expérience. C'est pour ça qu'en même temps on va dire que l'expérience elle est individuelle, mais Jésus va nous dire d'une certaine manière que toute expérience est partagée par l'ensemble de ce qu'il appelle la filialité. En anglais c'est sonship. On a inventé le mot filialité dans la traduction officielle du courant miracle. Sonship aussi c'est un mot qui en anglais est inventé. C'est l'état de fils. C'est l'état d'être le Fils. Or, tout ce qu'on peut voir, nous sommes tous le Fils. C'est-à-dire la manifestation du Père, la manifestation de la Source. Alors, on a pris ce mot en français, filialité. Mais c'est l'état d'être le Fils. Et donc, cet état d'être le Fils, il est total, infini. Alors, il a des rôles, des apparences, des facettes. Végétarien pour végétarien, on mange de la viande, on fait ceci, cela. Mais même... Quand je dis qu'une personne est comme ceci ou comme cela, qu'elle est végétarienne, par exemple, c'est maintenant. Yashmouin, par exemple, qui pendant 5 ans, ou plus de 5 ans, n'a pas mangé, et puis il y en a au moins 5000 qui font comme elle, d'ailleurs, qui ne mangent pas beaucoup plus qu'on pense, elle remange après, ce n'est qu'un rôle temporaire. Elle disait elle-même, moi, je ne mange pas, mais c'est délicieux de manger. Alors, s'il y en a qui ont envie de faire cette expérience, je fais des séminaires de formation à ça, ok, vous pouvez venir avec moi. Mais si vous n'avez pas envie, surtout, venez pas. Ça n'a aucune importance. C'est simplement une démonstration, c'est un rôle temporaire, comme tous les rôles. Donc, nous commençons à voir que le végétarisme,
l'astrologie, n'importe quoi. Ce sont simplement des rôles. Et un astrologue, par exemple, une astrologue, est au-delà de son rôle. Bon, mais elle fait de l'astrologie. Mais je la bloque pas dans son rôle d'astrologue. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait inconsciemment. Parce qu'on va dire, la personne, elle est astrologue, et puis tu as été la voir, et voilà ce qu'elle t'a dit, et puis tu vois, elle est bloquée dans ses croyances. C'est vrai. Temporairement, en apparence, oui, c'est vrai. Mais même j'arrête ça. Ça s'est passé dans le passé, probablement, ok, d'accord, je nie pas ça. Mais là, dans l'instant présent, je libère tout le monde. Je libère le potentiel christique qu'est tout le monde. Donc je cesse de bloquer mes frères et sœurs dans des rôles limités. Et je veux voir la lumière qu'ils sont. Je veux voir l'infini, le potentiel infini divin qu'ils sont et que je suis par la même occasion, évidemment. Ça n'empêche pas, encore une fois, de jouer des jeux de rôle, de s'amuser seulement. Maintenant, on les joue consciemment, c'est la différence. Donc volontiers, on dit oui, effectivement, je fais ceci, je fais cela, je fais de la musique, oui, d'accord. Ok, je donne des concerts, ou je suis écrivain, j'écris des livres, etc. Mais ça n'a pas de valeur en soi. C'est simplement quelque chose qui s'exprime à travers moi, c'est tout. Mais qui est l'auteur? Et c'est là que, dans le cours en miracle, d'ailleurs c'est très peu dit dans les enseignes, par les enseignants du cours, c'est pas très souvent dit, on parle d'auteur. Et qu'on dit que c'est une question d'autorité et d'auteur. C'est au sens de qui est l'auteur de tout. Et l'auteur, c'est l'esprit. Il n'y a qu'un seul auteur. C'est ce que le cours appelle le Saint-Esprit. Et ce que nous faisons, ce que nous semblons faire, nos rôles matériels, n'importe quoi, avoir des enfants, être végétarien, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est fait par l'esprit. Et l'esprit s'amuse. L'esprit s'émerveille. Et l'esprit est tout le temps dans la joie, dans la gratitude. Et donc, on cesse vraiment de donner une valeur négative à un paquet de tabac. On cesse de donner une valeur positive à telle ou telle chose. On se réjouit de tout. Parce que ce qui est important, c'est pas la chose en elle-même, elle n'est pas réelle. Ce qui est important, c'est la façon dont je vais la voir. Ce qui est important, c'est ma vision. Comment est-ce que je veux voir un paquet de tabac? Une porte de placard, des cellules cancéreuses, ou un merveilleux mandala. Comment est-ce que je veux le voir? Je veux le voir avec les yeux de l'amour. C'est-à-dire de le voir avec les yeux de l'accueil, de voir des atomes qui dansent, des molécules, un assemblage d'énergie, dans un jeu formidable qui est joué par un seul auteur, parce qu'il n'y a qu'un auteur. C'est qui nous sommes. Alors, c'est ça l'amour. Et ça a toujours été la seule réalité de tout. La seule différence, c'est que maintenant, nous en devenons conscients ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est par nos relations amoureuses entre nous. C'est-à-dire que nous le vivons, nous l'expérimentons par nos relations amoureuses, c'est-à-dire des relations d'accueil total entre frères et sœurs.
J'ai juste envie de rebondir sur ce que tu dis, Sylvain. Dans la manière dont on projette sur les autres des qualificatifs ou nos croyances. Et en fait, c'est ce qu'on fait sur soi aussi, par rapport à soi. Donc on s'enferme soi-même dans des croyances, dans des illusions d'identité. On dit je suis africain, je suis belge, je suis juif, je suis arabe, je suis, et on s'attache à ça et on pense que c'est ça qu'on est et finalement on en souffre. Et la notion d'identité, qu'est-ce qu'on est? Mais on est beaucoup plus que simplement un qualificatif ou une origine ou un pays ou... Donc, on est beaucoup plus large que ça. C'est ailleurs que ça se passe. Là, j'avais juste envie de dire ça.
Oui, Stéphane. Et ça me fait dire aussi qu'on peut parce que c'est comme un, ce qu'on vient de dire, c'est comme un mouvement où en fait on s'éloigne de ces formes particulières. Et en fait, moi, je suis dans le mouvement inverse et j'aurais plutôt tendance à aller vers ces formes, en fait, à les voir avec un amour intense, en fait. Puisque quelque part aller dans le côté spirituel, c'était presque plus facile jusqu'à aujourd'hui pour moi. Et par contre, accepter la particularité de ma vie physique, c'est plus difficile. Donc du coup, je cultive. Voilà, je sais que c'est les deux pôles sont importants et quelque part l'incarnation, j'ai besoin de la reconnaître pleinement. Donc le discours, je l'entends, mais je mets plus de valeur au fait de reconnaître en fait d'une façon intense chaque chose, chaque détail, ce qui revient au même, hein. Ce qui revient effectivement à trouver la liberté sur chaque chose en détail. Mais en même temps, je leur donne une valeur. J'oublie pas de leur donner la valeur qu'elles représentent. C'est-à-dire la valeur qui me permet à moi d'exister, enfin, de faire l'expérience, en fait. Voilà. Donc voilà, c'était tout. Tout simplement.
Quand on parle de valeur, on parle de quelque chose qui, si on l'a pas, ça nous manque. Ou si c'est une valeur négative, si on l'a, on est perdu, on va mourir, on est en danger. Tout est outil. Donc, une porte de placard, tout à l'heure je disais, regarder un paquet de cigarettes avec amour, et tu viens de dire que effectivement, ça se rejoint, c'est vrai. Et la spiritualité, c'est pas du tout être, ne pas s'occuper des formes. Au contraire, je dis, mais je regarde un paquet de cigarettes avec amour, un sexe avec amour. On a parlé de l'exemple de d'avis où justement tout est regardé, tout est vu dans la matière, dans l'expérience physique, avec amour. Et la spiritualité, c'est pas justement une évasion. C'est au contraire une incarnation pleine, c'est pour ça qu'on nous dit incarnez-vous, soyez là. Quand on dit soyez là, c'est une invitation, parce qu'en fait on l'a voulu. On a une partie qui regrette, qui ne veut pas, qui en a honte, et donc qui cache. Mais là on ne cache plus rien, au contraire, on va partout. Un arbre, on le touche, un sexe, une feuille d'arbre, une porte de placard, n'importe quoi, une crotte de chien, ce que vous voulez. Une théorie, un bouquin, une réunion, un groupe, une relation. Au contraire, on est vraiment là. On est vraiment là, et la vraie spiritualité, c'est complètement incarné. On est sur une planète ici de matière, c'est la planète Terre. Et quand je disais tout à l'heure qu'on est peut-être venu d'autres dimensions, et que peut-être qu'on a joué d'autres roues, mais en attendant, on est là. J'ai reçu un message depuis longtemps en disant, oui, tu as des pensées circulaires qui tournent, c'est même peut-être pas les tiennes, mais occupe-toi de ces pensées circulaires, parce que tu tournes en rond là. Et puis tu crées de l'enfer sans t'en rendre compte. Donc, la spiritualité, c'est vrai qu'on partage le spirituel. Pourquoi ? Parce que la matière vient du spirituel, c'est tout. Mais justement, si on veut dire, ben non, moi je quitte le spirituel, je m'occupe de la matière, on va perdre le message. Donc c'est ce paradoxe de rester, d'être de plus en plus incarné dans la matière, tout en restant accroché à ce qui est vrai, ce qui est réel. C'est-à-dire l'amour. L'amour de tout, l'amour d'une pomme, il y a des pommes devant moi, l'amour d'une tasse, l'amour de la maison ici chez Avi, l'amour des participants qui sont ici. Et l'amour, c'est un accueil total, infini, avec tous les détails physiques, matériels. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai repris le micro? D'ailleurs, merci de ton intervention, Stéphane. C'est que on parle d'outils. Et tout est un outil. Et effectivement, c'est utile. Et donc, parce que tu dis, ça me sert, bien sûr ça sert. Bien sûr que tout sert. Mais c'est pas permanent. Alors on dit, mais pourquoi ça sert à quoi de dire que c'est pas permanent puisque ça me sert? C'est que tôt ou tard, on va s'apercevoir que si je lui donne une réalité réelle, je suis perdu. Tôt ou tard, parce que je lui donne une valeur et si je l'ai pas, je manque. C'est pour ça que ce qui est très difficile de comprendre, c'est que tout est utilisé par l'esprit, mais rien n'est nécessaire. Dans le fameux message de TAC que j'ai partagé ici, qui a été rediffusé par Avi sur son site, que j'avais reçu avec Johanna Nieves en 1988, qui est un message très puissant dans la manière dont l'énergie arrive sur la planète, et qu'elle va au centre de la Terre, qu'elle est rediffusée comme des pierres précieuses qui diffusent
le rayon laser et qui va toucher tous les points de lumière que nous sommes, là où nous sommes, et que par nos relations amoureuses, on redéveloppe ça dans l'amour et qu'on permet à ce moment-là une évolution terrestre, une évolution de ce monde, dans la paix, l'harmonie, au lieu que ça soit une évolution dans le traumatisme, comme nous dit ce message, parce que de toute façon on va évoluer, mais notre rôle c'est que ça soit fait dans la douceur, dans la joie et dans l'harmonie. Dans ce message, il est clairement dit, et ça je le savais, ça m'a parlé tout de suite quand je l'ai vu arriver, un processus n'est pas nécessaire et pourtant il est disponible. Donc rien n'est nécessaire. Et quand on parle de spiritualité en disant que rien n'est nécessaire, on a l'impression qu'on quitte la matière, pas du tout. Mais on dit que c'est comme un jeu infini où tout est utilisé par l'esprit, on devient amoureux de tout et émerveillé par tout, et tout devient un outil de réflexion d'amour. Donc, et d'ailleurs, tu l'as dit à ta façon, puisque tu as dit au fond, on parle de la même chose. Mais cette mise au point est importante parce que ça revient tout le temps dans les groupes. Et quand on parle de spiritualité, on a l'impression qu'on se désincarne ou qu'on parle dans les moments. Mais pas du tout, au contraire, on est plus là que jamais, plus dans la matière que jamais. On est bien incarné ici dans une expérience humaine, terrestre. Et on est mieux pour ça d'ailleurs. Voilà.
Oui, quand tu dis que tout est disponible, que c'est utile mais pas nécessaire, enfin, il me semble que c'est qu'il y a quelque chose comme ça. C'est comme ça. Moi, ce que je ressens en tout cas, c'est que c'est qu'il y a quand même des destins et que si on suit pas le destin, enfin si on suit pas là où on doit aller. Et là, moi, je sens une nécessité pour moi, par exemple, d'aller là où je dois aller. Je sais pas vous, hein. Je sais pas concrètement la forme que ça doit prendre. Mais par contre, je sais que si je suis pas l'éveil ou si je ne vais pas là où je dois aller, je sais pas ce que c'est, hein. Mais enfin, au fur et à mesure, à chaque jour, on va dire, voilà, j'essaye de revenir dans les rails, plus, enfin voilà. Mais par contre, ça, je le vis comme une nécessité, mais qui n'est pas une nécessité au niveau de l'ego, qui est une nécessité au niveau d'un autre niveau. Voilà. Enfin, je voulais juste... pour moi.
Mais tout à fait, Estelle. En fait, un processus n'est pas nécessaire, mais il est disponible. Il y en a une infinité de processus. Et donc là, tu parles de l'écoute de ta guidance. Et justement, la guidance, elle est là pour dire, prends cette pomme. Prends à droite. Oui, tu vas dans tel groupe, ou au contraire, on en reste chez toi. C'est ça la guidance. C'est ça que t'exprimais, Estelle, effectivement, c'est juste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une infinité d'outils qui sont proposés par l'esprit, et chacun d'entre nous est appelé à suivre sa guidance. Et tu viens de dire, mais quand je ne suis pas ma guidance, je ne vais pas bien ce qui est juste. Et nos émotions nous aident à affiner notre guidance. Parce que si on fait quelque chose où notre âme profonde n'est pas d'accord, qu'on va contre, en restant dans l'ego, non, je veux absolument ceci, cela, je veux absolument telle relation, je veux m'accrocher à telle personne, alors qu'on me dit non, c'est plus l'heure. Eh bien, ça marche pas, ça va pas. Et à ce moment-là, tu dis, je vais pas bien parce que je suis pas ma guidance, c'est très juste. Ça veut pas dire que cette personne est aussi un outil, mais c'est pas l'outil pour toi maintenant. C'est en train de passer toi, t'es appelé à te utiliser un autre outil. Bon, on utilise tous, tout est outil, hein. Voilà. Mais merci pour cette clarification, c'est important.
Alors, juste avant de terminer ce groupe, au moins au niveau de l'enregistrement, il me vient de m'adresser à quelqu'un en particulier. Et je vais m'adresser à la dualité. Non pas comme une entité, mais symboliquement, je sens d'effectuer une sorte de rituel de passage. Parce que je peux me retourner en arrière et voir tout ce que la dualité m'a offert. Et je peux regarder de l'avant et voir tout ce que le nouveau monde a à m'offrir. Et je ne pourrai pas me propulser dans le nouveau monde, intérieurement, psychologiquement, et avec mes ressentis, si je ne quitte pas cette dualité. Alors, c'est Yeshua qui disait ça, hier je l'ai repris, dans un enseignement qu'il a donné à Jaïem.
il suggère de poser sa tête, au moment où vous posez votre tête sur l'oreiller, de libérer la journée qui vient de se terminer, de la relâcher, de la pardonner, de la bénir et de la laisser aller. Pour pas la prendre avec vous dans le lendemain, pour que le lendemain vous soyez ouvert et ouvert à ce qui peut arriver sans être chargé de la journée d'avant. Donc je vais faire ça avec la dualité. Je sens que nous sommes dans une période charnière, je sens que j'ai un pied dans la dualité et j'ai un autre pied dans le nouveau monde. Et que pour mettre les deux pieds dans le nouveau monde, j'ai besoin de dire au revoir et merci à la dualité. Donc dualité, écoute bien, c'est pour toi. Merci. Merci pour les bénédictions que tu m'as apportées, pour m'avoir fait grandir, m'avoir fait rencontrer tant d'épreuves dans lesquelles je me suis posé les vraies questions et j'ai eu les vraies réponses. Merci. Merci infiniment. Je te bénis. Je te bénis et en tant qu'outil, je te relâche. En tant qu'outil, je te pardonne. En tant qu'outil, je te libère. Tu m'as aidé et maintenant c'est terminé. Je ne te prendrai pas avec moi dans ce nouveau monde. Cela est, puisque ça a été utile et ça ne l'est plus. Et joyeusement, je mets le deuxième pied dans le nouveau monde. Et joyeusement, je te remercie de tous tes bienfaits. Ils ont été utiles et maintenant ne le sont plus. Que cela soit. Voilà, donc je vais sur ces joyeuses phrases empreintes des énergies nouvelles, je vais sonner la fin officielle du groupe enregistré et nous pourrons joyeusement continuer à partager de manière plus informelle entre nous après cette fin. À très bientôt dans cette joie, chers frères et sœurs, pour un prochain enregistrement.